Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation en Irak. Le HCR dénonce les attaques contre les humanitaires au Soudan du Sud. À Tombouctou, au Mali, la scolarisation des jeunes filles est en net progrès. Plus de filles vont désormais à l'école. En dossier, nous entendrons le message lancé par l'OMS à la COP25 ce mardi à Madrid. Le Conseil de sécurité a discuté ce matin de la situation en Irak qui est secouée depuis plusieurs semaines par un mouvement de contestation. L'envoyée de l'ONU dans ce pays, Janine Hennis-Plasschaert, a prévoyé que la répression des manifestations ne pouvait pas constituer une stratégie et qu'il fallait écouter la frustration et la colère exprimées par les manifestants. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Janine Hennis-Plasschaert a expliqué aux membres du Conseil de sécurité que l'on observait actuellement en Irak une accumulation de frustrations concernant un manque de progrès depuis de nombreuses années. Le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a annoncé sa démission il y a quelques jours face à ce mouvement de contestation qui a commencé le 1er octobre. Les manifestants dénoncent l'incompétence et la corruption de leurs dirigeants et la déliquescence des services publics. Ils demandent que leur pays puisse réaliser tout son potentiel au profit de tous les Irakiens, a expliqué Janine Hennis-Plasschaert. Elle a rappelé au Conseil de sécurité qu'en 2 mois, plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 19 000 blessées. Selon l'envoyé de l'ONU, les manifestants semblent déterminés à persévérer aussi longtemps que leurs demandes restent ignorées. Elle a estimé que la situation ne pouvait pas être résolue en gagnant du temps avec des mesures ponctuelles et en utilisant la répression. Cette approche ne fera qu'alimenter davantage la colère et la méfiance de la population, a-t-elle dit. Selon Janine Hennis-Plasschaert, la poursuite d'intérêts partisans ou la répression brutale de manifestations pacifiques ne constituent pas des stratégies. Elle a toutefois estimé que l'Irak n'était pas une cause perdue et que de nouvelles opportunités pouvaient émerger de cette crise.
Au Soudan du Sud, alors que la violence politique s'est largement apaisée depuis la signature de l'accord de paix revitalisé en septembre 2018, les affrontements intercommunautaires continuent de faire des morts et des blessés parmi les civils. Les attaques contre les humanitaires aussi semblent se multiplier, à l'instar de celui qui a eu lieu dimanche dernier, lorsque des hommes armés sont entrés par effraction dans un complexe d'une ONG dans la ville de Bounj, dans le comté de Mabane, dans le Haut-Nil, et ont sévèrement agressé le personnel et pris leurs biens. Une attaque fortement dénoncée par le porte-parole du HCR à Genève ce mardi. On écoute Babar Balok.
UNHCR strongly condemns this senseless act against aid workers.
Le HCR condamne fermement cet acte insensé contre les travailleurs humanitaires qui étaient là pour améliorer la vie des réfugiés et des populations vulnérables du Soudan du Sud. Au cours des derniers mois, les attaques contre les travailleurs humanitaires dans le pays se sont multipliées. Les violences de dimanche dans la localité de Bounj se sont produites seulement un mois après que 3 membres du personnel de l'ONU travaillant dans la région de l'Équatorial central ont été tués. Le plus jeune état de la planète est resté l'un des endroits les plus violents du monde pour acheminer de l'aide, assurer la sécurité des travailleurs humanitaires au Soudan du Sud est devenu un défi majeur. Cela entrave en permanence l'action humanitaire en faveur de certaines personnes parmi les plus désespérées de la planète. Le HCR appelle donc à un plus grand respect du droit international humanitaire et des droits humains afin de protéger les civils et les travailleurs humanitaires contre la violence et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient immédiatement traduits en justice.
À Tombouctou, au Mali, la scolarisation des jeunes filles est en net progrès. Cette amélioration est le résultat de la sensibilisation menée par l'État malien, mais aussi par les organisations non gouvernementales. Les efforts doivent cependant se poursuivre afin d'assurer l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, conformément à l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable. Un reportage à Tombouctou de Karim Traoré pour Mikado FM.
Il y a des filles ici qui ne mariaient pas jusqu'à finir des études. La raison pour laquelle nous sommes là.
C'est un fait rare qui illustre bien les progrès en matière de scolarisation des filles dans la région. L'école de Ondoubomo, à 20 km de Tombouctou, compte 2 fois plus de filles que de garçons. Dirigumo Amey, le directeur de l'école, en est tout fier et explique la situation de la manière suivante.
Nous avons besoin d'inverser cette tendance, surtout et par la sensibilisation. Ici, à Ondoubomo-Kouina, les parents d'élèves, surtout les femmes, les mères, préfèrent envoyer leurs petites filles à l'école pour plus de connaissances avant l'âge adulte, avant aussi leur mariage.
La réduction de la fracture entre filles et garçons en matière d'éducation résulte de la mise en place de stratégies pour favoriser l'accès des filles à l'école. C'est du moins ce que soutient Mamadou Moufilia Maïga, le directeur du centre d'animation pédagogique de Tombouctou.
Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'activités qu'on a mises en place pour la scolarisation des filles depuis un certain temps.
Au-delà du combat pour la justice et contre les discriminations, la scolarisation des filles est désormais comprise par les communautés comme une condition du développement qu'elles souhaitent. Karim Traoré, Tombouctou pour Mikado FM.
Deuxième jour des travaux de la COP25 à Madrid, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme ce mardi. Alors que les risques pour la santé augmentent, un financement prioritaire visant à protéger la santé face au changement climatique fait toujours défaut. Pour mieux comprendre, nous avons joint la directrice du département de l'OMS Santé publique et environnement, qui est à la COP, Dr Maria Neira.
Ça fait longtemps qu'on a bien identifié que le changement climatique représente un impact négatif sur la santé des gens. Ça détruit les piliers de notre vie, l'accès à l'eau potable, l'accès à la nourriture. S'il n'y a pas de production agricole parce qu'il y a une sécheresse ou une inondation, il n'y a pas de production agricole, il n'y a pas de nourriture. Et parce qu'il aussi altère les conditions dans lesquelles certaines transmetteurs des maladies comme les moustiques qui transmettent la malaria ou les dengues, on voit déjà une augmentation et tous les désastres naturels qui vont avoir un impact sur la population. Mais plus important que ça, ou au moins aussi important, c'est le fait que les causes de ces émissions de gaz à effet de serre sont presque les mêmes qui vont être responsables de la pollution de l'air qui nous intoxique chaque année. 1,7 million de morts prématurées chaque année dû à l'exposition à la pollution de l'air. Quand on sait que si on s'attaque aux causes des changements climatiques, on pourrait réduire les causes de la pollution de l'air et de cette façon réduire 7 millions de morts, ça nous donne 7 millions de raisons d'être très forts ici à la COP et de faire de notre mieux pour que la santé soit la force qui va augmenter l'ambition de lutter contre les changements climatiques et qui augmente aussi la vitesse à laquelle on prend toutes ces actions au nom de nos poumons et de nos cerveaux et de nos cœurs et surtout qui est très affectée par tous ces phénomènes.
Alors, vous parlez spécifiquement de tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre et de 7 millions de morts. Vous avez aussi évoqué d'autres maladies qui pourraient avoir un impact. Est-ce qu'on voit déjà l'impact de ces maladies et de ces autres conditions aujourd'hui?
Bien sûr, à côté de ça, on voit aussi une augmentation des cas de malaria et dengue qui sont transmises par les moustiques et toutes ces maladies liées à la manque à l'eau potable comme les diarrhées ou bien le fait que les populations ils vont être obligées à se déplacer d'une façon massive parce qu'ils perdent leur production agricole ou bien parce qu'il y a une sécheresse, une inondation et un désastre naturel, ils doivent migrer et là, ça pose des problèmes pour l'assistance sanitaire et les coûts pour le système de santé.
Alors, face à cette situation, il faut d'une part s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre, mais ça requiert également une préparation.
Ça demande bien sûr de s'attaquer aux causes, donc il faut décarboniser notre société, passer le plus vite possible à des énergies qui sont moins polluantes et il faut aussi bien sûr se préparer pour tout ce qui impacte ce changement climatique et pollution. Donc il faut les deux, il faut des ressources financières, des ressources de préparation pour les deux et pour l'adaptation, il faut que les systèmes sanitaires qui payent déjà un gros prix à cause des maladies qu'on doit déjà traiter et qui sont déjà assez débordés, qu'ils puissent mieux se préparer à être plus résilients autant que centres de santé au changement climatique.
Alors où en sommes-nous dans cette adaptation et cette préparation? À quoi appelle l'OMS aujourd'hui à Madrid à la COP25?
Justement, l'OMS a présenté aujourd'hui un rapport comme quoi on a regardé comment les pays étaient préparés pour s'adapter aux effets négatifs et ses conséquences sur la santé des changements climatiques. Et on a regardé plus de 100 pays et on a vu qu'il y a 2/3 qui ont déjà des plans d'adaptation. Mais malheureusement, quand après on va regarder l'exécution, l'implémentation, on voit qu'il n'y a pas de ressources pour l'exécution de ces plans, surtout dans les pays moins développés, évidemment, en voie de développement, et que tous ces fonds sont verts pour le climat ou bien des fonds pour l'environnement ne vont pas dans les secteurs santé. Et il y a moins de 3% des fonds destinés à s'adapter au changement climatique qui vont destiner au secteur santé. Donc, ça représente vraiment une proportion qui ne couvre pas du tout les besoins qu'on a.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.